BPM, élection municipale 2022.
Bonjour et bienvenue sur BPM, si vous venez de nous rejoindre, l'élection municipale de Mantes-la-Jolie aura lieu les 15 et 22 mai prochains. À cette occasion, BPM vous propose des émissions spéciales à 7h30, 8h30. Les candidats viennent répondre à nos questions et nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Santini, candidat de la liste Mantes Unies pour l'avenir. Cette liste est soutenue entre autres par des élus locaux comme Gérard Larcher, président du Sénat, évidemment Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, puisqu'il est sur la liste, et également la présidente de la GPSO. Jean-Luc Santini, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 64 ans, vous êtes élu à Mantes-la-Jolie depuis 1995, en charge de l'urbanisme depuis 2001. Vous conduisez donc la liste Mantes Unies pour l'avenir. Alors, pourquoi vous êtes-vous porté candidat ?
Alors, je me suis porté candidat, c'était pas prévu à l'origine, hein, bien sûr. Donc, quand les événements que tout le monde connaît se passent en fin d'année dernière et que le maire démissionne avec une poignée d'élus pour créer des élections municipales partielles, mes collègues, hein, la majorité municipale qui reste en place, hein, je vous rappelle, 32 élus me suivent, 32 élus sortants sur 38 me suivent dans cette campagne, ils me demandent de mener la liste pour les 4 ans à venir. Et donc, après quelques réflexions, parce que j'avais absolument pas prévu ça avant, j'étais très bien comme adjoint au maire en charge de l'urbanisme, ça me convenait très bien, donc j'accepte de mener cette liste pour devenir le futur maire.
Alors nous allons découvrir votre programme, on va commencer par le cadre de vie et l'écologie. Comment on peut embellir et protéger les écrins de verdure à Mantes-la-Jolie ?
Alors déjà protéger, c'est être plus ferme sur les déchets sauvages, hein, que l'on trouve quand même un petit peu partout, et essayer de reprendre la main pour protéger toute cette belle verdure que l'on a à Mantes-la-Jolie et nos quartiers, parce qu'il y a effectivement les bords de Seine, mais il y a aussi les rues, et il y a quand même beaucoup de choses à faire pour... Je pense qu'il faut un petit peu sévir, et c'est ce que l'on va faire, et puis éduquer tout le monde, rééduquer nos habitants au tri sélectif, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a des poubelles jaunes qui sont pas ramassées parce que tout le monde mélange tout. Donc il y a énormément de choses à faire, et puis trouver avec GPSO des idées sur les déchetteries.
Alors vous voulez également pérenniser les pistes cyclables et vous mettre à l'électrique.
Oui, alors pas qu'au vélo électrique, hein,
la voiture électrique. Voilà,
parce que si effectivement dans Mantes on voit me promener, circuler en vélo électrique, c'est pas des vélos électriques dont je parle, c'est effectivement du parc automobile de la ville qui petit à petit on doit avancer sur l'électrification du parc automobile. On a un parc automobile qui roule peu dans la journée, hein, puisque la ville est quand même pas immense, donc c'est tout à fait adapté aux véhicules électriques, et donc c'est ce que je souhaite faire tranquillement au fur et à mesure des renouvellements des véhicules.
Et également développer les pistes cyclables avec l'installation d'espaces de stationnement pour les vélos.
Alors oui, donc ça effectivement, maintenant avec les beaux jours, je recircule dans Mantes en permanence à vélo et je vois qu'il manque des pistes cyclables. On avait créé des pistes cyclables un petit peu temporaires pendant le confinement, donc ça avait bien fonctionné. Il devait y avoir un deuxième plan. L'ex-maire n'a pas souhaité lancer le deuxième plan en disant que c'était la compétence de GPSO, il oubliait simplement que c'était lui le président. Mais donc il n'y a pas eu de deuxième plan vélo, et c'est indispensable. Et effectivement, des pistes cyclables, c'est une bonne chose, mais des arceaux pour simplement accrocher son vélo quand on va au marché, c'est indispensable.
Alors on va parler de solidarité maintenant. Vous désirez une ville plus solidaire avec entre autres des tarifs municipaux qui n'augmentent pas. Alors quels tarifs municipaux ?
Une multitude de tarifs municipaux, ça va de la cantine au centre de loisirs. Il est vraiment indispensable d'offrir un service de qualité, ce qui est des fois un petit peu compliqué, mais sans augmenter les prix. Et donc c'est vraiment ça que je tiens à m'attaquer à ça. Pas d'augmentation de prix, mais une augmentation du service.
Vous voulez également créer une épicerie sociale, pourquoi ?
C'est une demande. Donc j'ai une collègue, hein, Ayette Morillon, qui est très attachée à ça, et puis aussi Anne-Marie Benoît, qui est en charge de ce genre de problème. Et donc on essaie de trouver une solution. Donc on a trouvé l'opérateur, c'est la Croix-Rouge, et on essaie avec la Croix-Rouge de trouver un local adapté, parce que effectivement une épicerie sociale c'est bien, c'est-à-dire que c'est pas du on donne pas hein, des fois il faut donner, effectivement les Restos du Cœur c'est très très bien, mais il y a aussi la partie il faut apprendre aux gens à venir choisir et payer un petit quelque chose. Et donc c'est ça l'épicerie sociale, c'est pas gratuit, c'est une épicerie à des prix très très réduits.
Et elle ouvrira à peu près quand?
On espère l'ouvrir en 2023, mais bon, c'est toujours compliqué de trouver des locaux.
Même à Mantes, pourtant, il y en a qui sont libres.
Oui, mais enfin, des locaux qui appartiennent à la ville, hein, parce que évidemment, on peut pas leur trouver. Pour que ça soit social, faut pas que déjà ils aient un loyer horriblement cher. Et puis, il faut toujours trouver 300 mètres carrés, hein, entre 200 et 300 mètres carrés, ça, c'est très compliqué.
Alors, on va passer au logement. Ça tombe bien, vous êtes adjoint à l'urbanisme. Alors, où en est-on pour la rénovation du Val-Fouré? Il y a quelques mois, on parlait de l'ANRU 2.
Alors, on parle toujours de l'ANRU 2. Le seul problème, c'est que l'ANRU 2, qui avait, enfin, la convention qui avait été signée l'année dernière par l'ancien maire et ancien président de la communauté urbaine, elle n'est pas financée. Donc, c'est.
Comment on peut signer une convention qui n'est pas financée?
Ah, ben, en rêvant et en faisant croire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de souci. En fait, quand on parle de dizaines de millions, oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que la communauté urbaine n'était pas du tout et n'est pas du tout en mesure de financer fortement le renouvellement urbain, que ce soit à Mantes ou dans les autres communes de la vallée de la Seine. Donc, il faut trouver un autre partenaire, et cet autre partenaire, si je suis élu, ça sera le département. Et parce que c'est indispensable, c'est le partenaire qui a le plus de possibilités financières pour venir remplacer la communauté urbaine. Et ça, c'était absolument pas prévu. Et aujourd'hui, la convention en rue, elle n'est pas financée.
Donc, il y a une convention, mais on peut pas commencer les travaux. Enfin, pour les gens qui nous écoutent, clairement, c'est ça.
Ah, complètement. C'est les bailleurs qui pouvaient faire les travaux sur leur fonds propres vont démarrer ou ont quasiment démarré. Mais sinon, tous les équipements publics ne peuvent pas démarrer parce qu'il n'y a pas l'argent pour.
D'accord. Donc aujourd'hui, on en est là.
Ah, on en est complètement là. Si on ne revoit pas la convention et si on ne fait pas rentrer, si on ne baisse pas la part de la communauté urbaine qui n'a absolument pas les moyens, malgré l'augmentation des impôts, qui n'a pas les moyens de se lancer dans l'ANRU, si c'est pas un autre partenaire qui vient remplacer la communauté urbaine, on démarrera pas les travaux des équipements publics sur le Val-Fouré. Et on en a énormément besoin.
Et alors, en ce qui concerne le centre commercial Mandeux, la dalle, pour les Mantais, ça va, c'est parti, c'est dans les tuyaux.
Alors, c'est parti depuis des années, mais depuis 4 ans, on parle beaucoup. Hein, ça, c'était effectivement, on parle beaucoup, mais on prend pas de décision. Donc là, il va falloir prendre des décisions pour faire avancer ce projet qui est, lui, un projet hors en rue. En partie hors en rue, donc qui devrait pouvoir démarrer si on prend des décisions.
Alors on va changer de quartier, on va arriver du côté de la guerre. Alors c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de candidats. Le nouveau quartier de la gare. Alors comment va-t-il se transformer? Combien de logements vont être créés et sur combien de temps?
Alors
sur l'arrivée d'Eol, c'est 2024-2025.
Voilà, donc je pense que Eol arrivera avant les premiers bâtiments construits, hein, parce que c'est quand même dans un quartier très très dense aujourd'hui. Déjà, c'est un petit peu compliqué de faire du renouvellement et de reconstruire la ville sur la ville. C'est quand même très compliqué. Donc il faut trouver. Et là, la communauté urbaine a lancé des études depuis 2 ans. Sur les dents creuses, sur voir comment on pourrait, sur chaque parcelle, comment on pourrait reconstruire, hein, rénover, reconstruire. Donc, ce que l'on peut dire, c'est sur une parcelle quand même, enfin, sur un secteur qui est quand même relativement grand, qui va de l'avenue de la division Leclerc jusqu'à la gendarmerie, on pourrait, en une dizaine d'années, avoir 600 ou 800 logements de reconstruits dans le meilleur des cas.
Donc, ceux qui disent que Mantes Université va passer le pont, enfin va passer la voie ferrée pour que ça soit à nouveau Mantes Université quartier de la gare, c'est faux.
Ben complètement, c'est pas du tout ce qui est prévu. Mais ils doivent pas lire. Enfin, je sais pas. Certains qui ont quand même été élus jusqu'en janvier dernier Ils ont vu les plans, hein, donc il n'y a pas de, ça n'a jamais été prévu comme ça. D'ailleurs, c'est l'ancien président de la CU qui les a lancés les études, donc il ne devrait pas dire. Enfin, j'espère que c'est pas lui qui dit ça.
Alors, on va passer à l'éducation maintenant. Comment améliorer la scolarité de nos enfants?
Alors, la scolarité, la responsabilité de la ville, ce sont les locaux. Hein, donc, on a quand même beaucoup de problèmes, même si depuis 1995, on a mis des moyens colossaux dans les écoles. On a toujours des choses à faire. Et donc, on a des écoles à restructurer, des écoles à agrandir. Alors, les deux cas, enfin, il y a des cas déjà lancés sur le Val-Fouré, mais à condition que l'ANRU démarre et soit financée. En centre-ville, il y a un cas criant aujourd'hui, c'est l'école des Mimosas, qui est une maternelle qui est aujourd'hui vraiment vieillissante et qu'il faut, on peut même pas la réhabiliter, il va falloir la démolir, mais elle est déjà trop petite, donc l'idée principale, c'est bien de la démolir, de la reconstruire en l'agrandissant. Mais c'est toujours compliqué, c'est comme, on va dire, c'est un peu le quartier de la gare. Comment agrandir une école dans un tissu urbain dense, hein, et déjà, donc on négocie avec les voisins pour essayer de récupérer un petit peu de foncier pour pouvoir faire une école qui réponde aux besoins de la population.
La crèche Pirouette aussi au centre-ville doublera sa capacité?
Oui, alors la crèche Pirouette en fait était à l'origine cette crèche, hein, c'était une halte garderie qui avait été faite il y a déjà une vingtaine d'années dans ce qui était à l'origine la cantine du personnel municipal de la ville, hein. Donc c'était quand même pas un bâtiment qui avait été fait pour ça, qui a été très bricolé, qui rend encore aujourd'hui d'énormes services, mais que l'on ne pouvait pas agrandir sur place et qui avait aussi des problèmes pour le personnel, puisqu'il pour aller dans leurs locaux de personnel, il fallait qu'ils sortent et par l'extérieur pour monter au premier étage. Donc on a acheté dans le nouveau bâtiment à l'entrée de ville, on a acheté tout le rez-de-chaussée. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on va déménager la crèche et ce qui va nous permettre de doubler le nombre de berceaux.
Alors, le groupe Paul Bert également sera rénové?
Le groupe Paul Bert sera rénové, oui. Donc, c'est une étude à un petit peu plus long terme, mais il faut refaire une école à cet endroit-là. C'est un bâtiment vieillissant, c'est un bâtiment, c'est un CVS indispensable, c'est une mairie de quartier indispensable, mais l'école Buisson qui est à côté explose aussi en capacité. Donc, il y a à cet endroit-là un grand terrain. C'est un bâtiment énergivore comme tous les bâtiments anciens. Donc, il faut repenser complètement, recréer une école à cet endroit-là, tout en conservant un CVS et bien sûr la mairie de quartier.
Alors, on va passer à la jeunesse. Vous proposez dans votre programme un dispositif réussite jeune pour les 16-25 ans. Alors, qu'est-ce qui va apporter de plus que ce qui existe déjà?
Alors, ce que l'on veut, c'est aussi aller vers les jeunes. Hein. Aujourd'hui, les remarques que l'on a eues, il existe tout un tas de structures, de propositions. Mais en fait, les jeunes, s'ils ne vont pas voir, en fait, je me suis un petit peu rendu compte de ça, s'ils ne vont pas dans les locaux de la ville, ça marche pas. Par exemple, moi, ce que je propose aussi, c'est aller à la rencontre des jeunes, hein, pour toutes les structures municipales, Dieu sait qu'il en existe. Donc, aller sur le terrain pour leur dire, mais venez, il existe des choses pas que dans l'occupationnel, hein, mais aussi pour les aides au travail. On se rend compte qu'il y a des personnes qui ne savent pas que même pour les collégiens, il y a de l'aide au travail et qui vont dans des entreprises privées, que je ne critique pas, mais qui payent pour faire de l'aide au travail alors que ça existe dans les associations financées par la ville de Mantes.
Alors, passons aux seniors maintenant. Vous voulez rénover la résidence Cléris?
Oui, qu'on a bien besoin.
Alors, les dates, enfin, il y a des dates, il y a un programme. Fin...
Alors, c'est toujours très compliqué. Donc, il y a déjà eu des rénovations importantes de fait dans ces bâtiments, mais il y a des besoins supplémentaires. Il y a aussi toute la partie activité au rez-de-chaussée qui est très, très occupée. Donc, il faut revoir tout ça. Les dates, c'est pas obligatoirement des problèmes de financement, c'est surtout des problèmes d'organisation pendant les travaux. C'est toujours compliqué de faire des travaux pendant en site occupé. Donc on a plus et puis avec des seniors, c'est toujours un peu compliqué pour trouver des créneaux pour faire les rénovations.
Mais justement, les seniors, on va en dire un dernier mot. Vous envisagez la création d'un salon annuel des seniors?
Oui, alors ça, c'est une demande. C'est une demande des seniors et c'est une demande sur le parc des expos. C'est-à-dire que le parc des expositions, en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est les salons généralistes, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne très bien, ce sont les salons à thème. L'habitat, le mariage, la chasse, bien sûr. Et donc, on a des demandes pour faire un salon des seniors qui regrouperait là aussi tous les services offerts aux seniors, hein, et donc c'est une proposition qui est vraiment qui est bien avancée.
Passons maintenant à la santé. Vous comptez ouvrir une maison médicale de proximité à proximité de l'hôpital. Comment vous allez recruter les médecins et quels avantages va-t-elle apporter?
Oui, alors donc ça c'est une structure, on va dire, pas municipale, donc c'est une structure faite en lien avec l'ARS et l'hôpital, donc c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour l'hôpital. C'est effectivement compliqué, on sait très bien que tout le monde se bat pour avoir des médecins, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'hôpital va refaire complètement son service d'urgence, hein. Ça y est, l'ARS a donné les financements pour revoir complètement le service d'urgence. C'est dans tout ce mouvement.
C'est pour dédensifier les services d'urgence qu'on crée une maison médicale à côté.
En fait, on sait très bien que les services d'urgence sont paralysés par la bobologie. Hein. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de médecins de garde, comme on manque de médecins généralistes, il est beaucoup plus simple, mais c'est pas une bonne chose d'aller aux urgences. On sait que là, on sera toujours soigné.
Et la date de création de cette maison?
Le plus vite possible. Mais ça, on sait que ça prendra, faut pas rêver, ça prendra du temps.
Deux ans.
On voit le mal que nos collègues et amis de Mantes-la-Ville ont pour retrouver un emplacement pour les médecins. C'est la guerre des médecins, c'est à celui qui attire les quelques médecins. Tant qu'on n'aura pas largement augmenter le numerus clausus de la médecine, enfin de la formation des médecins,
ouais.
Ça ne marchera pas. Et alors on fait que nous dire, mais ça va s'améliorer, mais il faut attendre 10 ans pour que ça s'améliore.
Faut attendre 10 ans, ouais, voilà. Un médecin, c'est 10 ans. Il nous reste 2 minutes. On va essayer de parler économie. Concernant les commerces de Mantes-la-Jolie, comment pouvez-vous les valoriser et aider leur activité?
Alors, déjà, notre politique, c'est une politique foncière. Il faut absolument, d'abord, que la mairie continue à se porter acquéreur quand les murs sont à vendre dans l'hypercentre de Mantes-la-Jolie. Donc ça, c'est totalement indispensable pour pouvoir rééquilibrer le prix des loyers en fonction de l'activité dans ce commerce. Il faut aider de nouvelles enseignes à s'installer. Et je pense que ma collègue, hein, Carole Philippe, est vraiment la spécialiste du commerce. Et avec l'Office du commerce créé, qui commence à monter en compétences, on a beaucoup de solutions. Mais il faut effectivement travailler avec l'association des commerçants. On va repenser complètement la foire aux oignons avec eux. Il faut travailler avec eux et pas leur amener des choses toutes faites qui sont probablement des quelques événements qui leur conviennent pas.
Dernière question. Vous comptez renforcer la vidéoprotection. Alors, il y a déjà beaucoup de caméras à Mantes-la-Jolie. Quels sont les lieux de la ville qui en ont le plus besoin?
Alors en fait, ça c'est la police, police municipale et police nationale qui nous explique à quel endroit il faut mettre de la vidéoprotection, hein, dans des endroits. C'est vrai qu'on a tendance, quand un quartier ou quand une rue a une caméra, bah la délinquance peut éventuellement se déplacer. Donc il faut, alors on parle de...
Il faut suivre,
mais pourquoi pas avoir aussi des caméras sur des Macs que l'on déplace, mais c'est très compliqué la vidéoprotection puisque, et c'est évident, il faut protéger la vie privée. Hein, donc ça, c'est totalement indispensable. Comme il faut protéger la vie privée, il y a des règles très, très strictes que l'on doit respecter et que l'on respecte, et des demandes au préfet, et c'est le préfet qui décide de l'implantation.
Merci Jean-Luc Santini d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Cette émission sera rediffusée à 13h et 18h30 et disponible sur notre site internet bpmlaradio.com, rubrique podcast municipal 2022. D'ici quelques instants, j'ajoute également que vous retrouverez lundi matin à 6h30, 7h30 et 8h30 un journal spécial de la rédaction de BPM, entièrement consacré aux résultats du premier tour et aux réactions des différents candidats. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de BPM.
BPM, élection municipale 2022.